Villiers de l'Isle-Adam, l'étonnant couple boutonnait. Ce qui cause la réelle félicité amoureuse chez certains couples, ce qui fait le secret de leur tendresse, ce qui explique l'union facile de certains couples, est entre toutes choses un mystère dont le comique terrifierait si l'étonnement permettait de l'analyser. Les bizarreries sensuelles de l'homme sont une roue de Pan dont les yeux ne s'allument que au fond de l'âme, et seul chacun connaît son désir. Par une radieuse matinée de mars 1793, le célèbre citoyen Fouquet-Tinville, en son cabinet de travail de la rue des Ruères, assis devant sa table, l'œil errant sur main dossier, venait de signer la liste d'une fournée de ci-devant dont la suppression devait avoir lieu le lendemain, même entre 11h et midi. Soudain, un bruit de voix, celle d'un visiteur et d'un planton de garde, lui parvint derrière la porte. Il releva la tête, prêtant l'oreille. Une de ces voix qui parlait de forcer la consigne le fit tressaillir. On entendait « Je suis Thermidor Moutonnet, de la section des enfants du devoir. Dites-lui cela !» À ce nom, Fouquet-Tinville cria « Laissez passer !» Par là, je savais bien, vociféra, tout en entrant dans la pièce, un homme d'une trentaine d'années, la mine assez joviale, bien qu'une sournoiserie indéfinissable ressortît de l'impression que causait sa vue. « Bonjour, c'est moi, mon cher. J'ai deux mots à vous dire. » Mais, soit bref, hein, non, en même temps, c'est pas le temps et pas moi ici. Le survenu prit un siège et s'approcha de son ami. Combien de têtes pour la prochaine? Demanda-t-il en indiquant la pancarte que venait de paraffer son interlocuteur. 17, répondit Fouquet-Tinville. Il reste bien une place entre la dernière et la griffe. Oh, toujours, dit Fouquet-Tinville. Pour une tête de suspect? Oui. Eh bien, bon, je te l'apporte. Et le nom? Demanda Fouquet-Tinville. C'est une femme. Il doit être d'un complot. Combien de temps demandera-t-il le procès? Bon, 5 minutes. Le nom? Alors on pourrait la guillotiner demain. Le nom? C'est ma femme. Fouquet-Tinville fronça le sourcil et jeta la plume. « Allez, va-t'en, je suis pressé, » lui dit-il. « Nous rirons plus tard. »« Mais je ne ris pas, j'accuse !» s'écria le citoyen Thermidor d'un air froid et grave, avec un geste solennel. Sur quelle preuve? Oh, sur des indices. Lesquels? Ben, je les pressens. Bouquetinville garda de travers son ami Montaunet. Thermidor, dit-il, ta femme est une digne sans culotte. Son pâté de jeudi dernier, joint à ces trois flacons de vieux Vouvray, que tu m'as fait découvrir dans ta cave, derrière les fagots, du meilleur que ce que tu me donnes d'habitude, mais habituellement. Ils étaient bons, oh, ils furent réellement bons, excellents. Présente ma cordialité à la citoyenne. Nous dînons ensemble demain, soir, chez toi. Bon, allez. Sors, je me fâche. Thermidor Moutonnet, à cette réponse presque sévère, se jeta brusquement à genoux, joignant les mains, les larmes aux yeux. Ta ville, murmura-t-il, comme suffoqué par une surprise douloureuse, nous fûmes amis dès le berceau. Je te croyais un autre moi-même. Nous avons grandi dans les mêmes jeux. Laisse-moi faire appel à ces souvenirs. Je ne t'ai jamais rien demandé. Me refuseras-tu le premier service que j'implore? Mais qu'as-tu bu ce matin? Je suis à jeun, répondit Moutonnet, en ouvrant de grands yeux, ne comprenant pas évidemment la question. Et après un silence, eh bien, tout ce que je peux faire pour toi, c'est de lui faire demain, soir à table. La démarche incongrue. Je puis croire que tu oses présenter, toi, ici, et que tu sois devenu fou. Quoique, dans ce que tu viens de me demander, cette dernière supposition soit admissible. Mais je ne peux pas vivre avec Lucrèce, gémit le solliciteur. Tu as soif d'être cornard, citoyen, je vois cela. Non, non, ne me refuse pas. Quoi ? Lui faire couper la tête parce que vous avez des mots ensemble ? Oh, la carogne ! Voyons, mon bon Tinqueville, au nom de notre amitié, au nom de tous que nous avons ensemble, mets ce nom sur ce papier, je t'en prie, pour me faire plaisir. Allez, un mot de plus, j'y mets le tien. Alors voilà, Fouquet-Tinville, en ressaisissant sa plume. Par exemple, pas de ça, cria Moutonnet, plus pâle, en se relevant. Bon, allons, soupira-t-il. C'est bien, je m'en vais. Mais, ajouta-t-il, et d'une voix de fausset, mystérieusement singulière, pour ainsi dire, et que son ami ne lui connaissait pas. J'avoue que je ne croyais pas capable de me refuser. Après tant d'années de maison, cet insignifiant petit service qui t'eût coûté qu'un griffonnage. Bon, il y a un dîner quand même après-demain, demain. Moi, tu sais ma femme. Ceci est entre nous seuls. Acheva-t-il d'un ton sérieux et cette fois naturel. Et Thermidor, Moutonnet sort. Resté seul, citoyen Fouquet-Tinville, ayant rêvé un moment, se toucha le front du doigt avec un froid sourire, puis, ayant haussé les épaules comme par forme de conclusion, prit sa liasse, en inséra le pli dans une large enveloppe, écrivit l'adresse et frappa sur un timbre. Un soldat parut. « C'est au citoyen Sanson, » dit-il. Le soldat prit l'enveloppe et se retira. Tirant un oignon d'or de son gilet en gros de Naples fleuri d'arabesques tricolores, et regardant l'heure, « 11 heures !» murmura Fouquet-Tinville. « Allons déjeuner !» 30 ans après, en 1823, Lucrèce Moutonnet, une dame brune de 48 ans, encore dodue, fine et futée, et son époux Thermidor, s'étant expatriés en Belgique au bruit des canons de l'Empire, habitaient une maisonnette d'épicerie florissante, avec un coin de jardin dans un faubourg de Liège. Durant ces lustres et dès le lendemain de la fameuse démarche, un mystérieux phénomène s'était produit. Le couple Moutonnet s'était révélé comme le plus parfait, le plus doux, le plus fervent de tout ce que l'amour passionnel n'a jamais tissé des liens délicieux. Le pigeon, la colombe, tels ils semblèrent. Ils passèrent pour le modèle des existences conjugales. Jamais le plus léger nuage entre eux ne se leva. Leur ferveur fut extrême, leur fidélité presque sans exemple et leur confiance réciproque. Et cependant, le mortel auquel on aurait donné le pouvoir de lier un profond de ces deux êtres se serait bien étonné, peut-être, de pénétrer le réel motif de leur félicité. Thermidor, en effet, chaque nuit, dans l'ombre où ses yeux brillaient et clignotaient, pendant que la collait conjugalement celle qui lui était chère, se disait en soi-même, tu ne sais pas, non, tu ne le sais pas, j'ai été fait le possible pour te faire couper la tête. Ah, ça, si tu savais cela, tu ne m'accorderais plus rien en m'embrassant. Mais moi, je suis le seul à savoir. Et voilà ce qui me transporte. Et cette idée l'avivait, le faisait sourire doucement dans les ténèbres, le délectait, le rendait amoureux jusqu'au délire, car il la voyait alors sans tête. Et cette sensation-là, d'après la nature de ses appétits, l'enivrait. Et de son côté, Lucrèce, également, se disait par une contagion, avec le même aigu d'idées et le malsain énervement. Oui, mon bon apôtre, tu ris, tu es content, tu es ravi. Eh bien, tu me désireras toujours, car tu crois que j'ignore ta visite au bon fou qui est ta ville. Est-ce que tu as voulu me faire couper la tête, scélérat? Mais voilà, je sais cela, moi. Seul je sais ce que tu penses. Et à ton tour, et à ton insu, sournois, je connais tes sens féroces, et je ris tout bas, lorsque je suis tout très heureuse, malgré tout, mon ami. Ainsi, le bas d'insanité sensorielle de l'un avait gagné l'autre par le négatif. Ainsi vécurent-ils, se leurrant l'un et l'autre, et l'un par l'autre. Et ce détail monstrueux, où tous les deux puisaient un terrible et continuel adjuvant de leur macabre plaisir. Ainsi moururent-ils, elles d'abord, sans s'être jamais trahis leur secret mutuel de leurs étranges, de leur joie taciturne. Et le veuf Thermidor moutonnait, sans enfant, demeurant fidèle à la mémoire de cette épouse à laquelle il ne survécut que peu d'années. Quelle femme, d'ailleurs, eût pu remplacer pour lui sa chère Lucrèce?